le combat et en fait le fait sans doute assassiner en 661. Il a commencé sa conquête en 656, en 661, Ali meurt assassiné. Et à partir de là, Moïa va créer la dynastie des Omeyyades, qui est une dynastie uniquement guerrière et qui ne peut considérer dans le Coran que la partie guerrière. Or, il meurt en 680, et c'est à partir de 680 qu'est daté le califat omeyyade, qui va durer assez peu de temps d'ailleurs, c'est-à-dire qu'il va durer pratiquement la fin de toute cette période des cinq premières sourates. Maintenant, il y a comme toujours dans le Coran, il y a tout autre chose que cette description chronologique. Il y a cette idée étonnante et qui n'avait jamais été donnée dans un texte sacré, un livre sacré, qui s'exprime surtout dans les deux sourates signées ALM, la deuxième et la troisième sourate. La deuxième sourate s'appelle La Vache, et elle raconte que Moïse a interdit à son peuple l'adoration du veau d'or. Pourquoi adorer un veau? Faites-vous donc vous-même l'objet du sacrifice. Il sera plus agréable à Dieu, le Dieu qui revient et qui pardonne. Mais, en même temps, la sourate nous raconte que, ayant mis un homme à mort, ce meurtre faisait les disputes des Hébreux, et nous, Dieu, nous commandâmes de frapper le mort avec un membre de la vache, car c'est ainsi que Dieu ressuscite les morts, et vous révèle ces signes pour que vous compreniez. Très difficile à comprendre. Il leur interdit l'adoration du veau d'or, et en même temps, il témoigne que la vache ressuscite les morts et que c'est le signe de Dieu. Or, ça s'explicite par la sourate qui suit, 3, qui s'appelle la famille d'Abraham et qui raconte la naissance du Christ. Et il dit que Dieu, comme Dieu avait envoyé Moïse, et comme nous avions donné le livre à Moïse, plus tard à Jésus, fils de Marie, nous donnâmes l'épreuve de notre sainteté. Mais quand la parole ou le signe vous déplaise, n'est-il pas vrai que vous mettez en doute? Or, Jésus combat le Pentateuque, bien que Mahomet dise que c'est le livre de la vérité, comme Moïse avait combattu le veau, bien que la vache soit résurrectrice, c'est le signe de Dieu. C'est-à-dire qu'il y a un temps où les dieux sont vivants et doivent être adorés, et un temps où ils ne sont plus vivants et ne doivent pas être adorés. C'est cette première sourate, puisque la première n'est qu'une invocation à Dieu, cette première sourate ésotérique de la Bible, de la Coran, contient vraiment tout le mystère du Coran. Il n'y a qu'un Dieu vivant et éternel. Comme il t'a envoyé le Pentateuque, puis l'Évangile, il t'envoie le Coran qui les explicite. Parmi les versets qu'il compose, certains sont évidents, ceux qui tiennent au fondement, d'autres sont allégoriques. Que l'esprit subtil s'attache à ceux-ci, même s'il y trouve matière au schisme par besoin de les expliquer, car Dieu se l'explique. Mais que les autres, férus de science précise, s'attachent à la précision, qu'ils croient dans le Coran pour ceux qu'ils y croient. Peut-être être plus neutre. La création des cieux et de la terre, l'alternance du jour et de la nuit, autant de signes aux yeux du sage. Que celui qui possède un livre, quel que soit le livre, n'en vende pas le secret à vil prix, son seul salaire est la proximité de Dieu. Ni vos désirs, ni vos souhaits n'ont d'importance si le livre vous a été donné. Quiconque y désobéit devra subir sa peine selon sa loi. Mais l'islamique qui persévère entrera dans son paradis. Tout cela est une clarté absolue. Brusquement, on trouve trois autres formes de sourates, l'une qui prépare la sourate ELM Sad, et l'autre qui la suit. Donc les sourates 6, 7, 8, qui vont de la période 617 à 774. Alors cette période est exactement celle de la fin des Omeyyades, et qui est supplantée par les Abbasides, et la capitale des Omeyyades, Damas, est transplantée à Bagdad, capitale des Abbasides. Les Abbassides ne sont pas des musulmans combattants, ce sont des musulmans ésotéristes qui vont implanter la doctrine du cœur et qui vont implanter vraiment le miséricordieux. Il faut dire et répéter que tous les versants du Coran sont, sauf un, nous verrons, sont adressés au miséricordieux. donc cette période, ces sourates qui s'appellent les troupeaux, qui portent ces lettres, et qui s'appellent le butin, circonscrivent exactement la fin des Omeyyades, et le début des Abbassides. Ésotériquement, c'est le moment... c'est la première fois, évidemment, qu'on trouve cinq lettres à la fois. E, L, M, ça a quatre lettres. Ça montre une sorte de polythéisme, enfin, il y a une sorte d'ouverture à des dieux différents et à un ésotérisme nouveau. Or, ça va être la première grande période ésotérique de l'islam. La sourate couvre la période 736-755 et entre 736-755, on va voir naître la science de la balance dans l'islam et on va voir le sixième imam chiite, Jafar, mourir sans descendance, puisqu'il est mort après la mort de son fils, du conflit de filiation naîtra un nouveau schisme. C'est-à-dire qu'au lieu de se fonder sur les 12 imams, comme Ali, ils vont se fonder, les nouveaux chiites fatimines, vont se fonder sur cette structure. Là, la date est extraordinairement tranchée, puisque c'est en 732 que la bataille de Poitiers met fin à l'expansion islamique, et c'est en 735 que paraît le livre de Jafar et du plus grand ésotériste peut-être de l'islam, et qui s'appelait Jabir, et qui reprenait en somme les grands ésotéristes platoniciens, et qui analysait les sept structures. Alors, les sept structures, comme toujours, nous le verrons, se trouvent exactement dans cette septième sourate signée. La septième sourate qui est signée ELM Saad. Cette sourate raconte que Iblis, le démon, a refusé d'adorer Adam, comme tous les anges, et Dieu l'a maudit, mais laissé libre de poursuivre sa tâche de corruption jusqu'au jour de la résurrection. L'homme l'a écouté, donc il a été chassé du paradis, et il y a un signe qui lui a été donné, c'est le vêtement. C'est très intéressant parce que c'est précisément par le vêtement que les Sumériens caractérisent le pouvoir de Marduk. Ensuite, Dieu va envoyer des prophètes pour essayer d'amener les hommes à n'adorer que lui, Dieu. Dieu va envoyer Noé. Il va leur dire « Adorez le seul Dieu ou craignez le grand jour. » Et quand le déluge survient, le deuxième signe, c'est l'arche. Et nous avons envoyé ceux qui niaient le signe des aveugles. Nous avons envoyé Hod aux Adéens, ses frères, pour qu'ils les avertissent « Adorez le seul Dieu ou craignez son pouvoir. » Et ce fut le troisième signe. Et nous avons exterminé ceux qui le niaient, les incroyants. Salé, notre ministre, dit au Thémudéen, il n'est qu'un seul seigneur, adorez-le. La chamelle fut le quatrième signe. Mais la terre et le cataclysme surtout. Lot dit à Sodome, commettrez-vous le crime inconnu que nul n'a commis avant vous. La pluie qui noya le feu fut le cinquième signe. Chaïb au Madianite, Chaïb c'est celui que la Bible appellerait Jéthro, le beau-père de Moïse. Rendez hommage au Dieu unique qui nous a révélé sa puissance et ceux qui se détournaient de lui furent comme s'ils n'avaient pas vécu le sixième signe. Car nous n'envoyons pas un prophète dans une ville sans la frapper afin qu'elle s'humilie, puis nous changeons le mal en un bien. Ainsi Moïse dit au Pharaon, je suis le ministre du roi de l'univers, quel est ton signe, dit le Pharaon. Et Moïse jeta son bâton qui se trouvait être un serpent. Et ce furent d'autres signes encore que les 12 tribus, les 12 sources jaillies du rocher sacré. C'est le 160e verset de la 7e sourate qui parle ainsi. Mais qui peut éclairer les peuples insensés, tout ce n'est pourtant du premier couple. Seul dans la présence du Très-Haut, loin de se refuser à ses lois, les anges l'en louent et l'adorent sans cesse. Cette période est ainsi, non seulement la destruction des Omeyyades et la création des Abbassides, mais c'est vraiment le temps d'un royaume, d'une soumission totale au miséricordieux, que le Coran, que les coranistes ont appelé le temps de la nature parfaite, et qui correspond au temps du bon Dieu de Michelet, qui correspond au temps d'amour des Fabio, à la présence de la doctrine du cœur. Maomet dit qu'il y a quand même que le Satan n'est jamais absent de l'Éden. Et dans cet Éden, il y a aussi un serpent, il y a un prophète noir, il y en aura bien au cours de l'histoire, qui sera rejeté par les schismes même, comme les schismes étaient rejetés par les orthodoxes. Il s'appelait Hakim al-Mokana, le prophète masqué, et qui naît précisément en 736, encore une fois au cœur de cette période. Il est maître de la Perse kurde, de l'an 158 à l'an 163 de l'Égypte, et son masque est un masque de taureau. Il possède un harem de 114 femmes. Il prophétise une félicité d'outre-tombe, pareille à celle des adieux, du renoncement et de ceux qui savent qu'il dort. Il fut le premier sans doute à établir une gnose faite de plans superposés que devaient gagner l'un après l'autre sept moules au bout de cette structure. Il mourut au milieu de ses femmes qu'il avait empoisonnées parce que son château était assiégé. Et il est bon de signaler ça parce que tout de même, ce monstre est vraiment à l'origine de l'ésotérisme des sept structures. C'est cette structure qui se trouve définie par la sourate 7, puisque, en somme, les sept prophètes qui ont annoncé le dieu de justice sont ici clairement définis. Enfin, il y a eu Adam, il y a Noé, et on remarque que Mahomet ne parle pas d'autres prophètes entre Adam et Noé, comme il en parlera dans d'autres sourates. Il y a uniquement Noé, Od, Salé, Lot, Shaïb et Moïse et Pharaon, 6, c'est-à-dire 7 avec Adam le premier. C'est sept signes qui délimitent le Dieu de justice. On sait que dans l'Apocalypse, c'est également, vous rappelez, c'est sept signes, ou sept coupes, ou sept trompettes, etc., qui annoncent les ères successives. La période suivante va de la 9e à la 17e sourate et de 774 à 945. Elle comporte les lettres ELR et elle décrit essentiellement les prophètes du temps passé comme Jonas, Od, Joseph, Abraham ou le lieu des ténèbres qu'habitaient les hommes scorpions aigres. Elle commence par la sourate 9e qui est la seule à ne pas porter l'invocation au Dieu miséricordieux. Et on s'est beaucoup étonné de ça, on a cherché à l'expliquer de toutes les façons. On a dit que la 9e complétait seulement la 8e, tout ça c'est assez douteux. On a dit que l'amour était absent de cette sourate, c'est vrai, mais enfin, et tout de même, il est noté dans la sourate que la miséricorde demeure le partage des croyants. Donc, la sourate est celle des deux temples, où Mahomet décrit les deux cités de Dieu, l'ensemble de Saint-Augustin, du moins les deux cités, la cité de Dieu et la cité de l'homme. Si la cité de Dieu est fondée sur la crainte du Seigneur, le second est bâti sur l'argile et elle doit s'effondrer. Alors les exégètes habituels disent, ben oui, c'est la Mecque et Médine, n'est-ce pas les deux villes entre lesquelles balancer Mahomet. Oui, sans doute, mais c'est bien autre chose que ça. Dans cette même sourate, on lit que dans toute période de temps, comme dans l'année, le tiers de la période est dans la main de Dieu. 4 mois sur 12 dans l'année. 722 ans sur 2166, c'est-à-dire. Or, l'islam garde encore cette prescription, faisant que dans 4 mois, il y a une sorte de... Enfin, l'homme ne doit pas se combattre, ne doit pas dire du mal de son prochain, ne doit pas... il doit vivre dans la paix. Et Mahomet dit, cette sourate s'adresse aux impies, enfin du moins à ceux qui ne croient pas, aux infidèles, et il dit, en somme, c'est pourquoi elle n'est pas adressée au Dieu miséricordieux, elle est adressée à ceux qui n'ont pas de Dieu, qui n'ont pas le Dieu de Mahomet, et elle les avertit que le temps du royaume de Dieu, ce tiers de l'année, est évidemment marqué de la grâce de Dieu, de sa bénédiction, et qu'ils n'ont rien à craindre pendant le temps que durera cette période, mais qu'elle aura une fin, et que quand elle finira, le châtiment sera terrible pour ceux qui n'ont pas connu ou ressenti la grâce divine. Et c'est pourquoi elle n'a pas passé sous la vocation du miséricorde. En fait, la nature parfaite, c'est-à-dire l'accord parfait de la forme et de la substance, disparaît effectivement en 940 et dès la fin des sourates lettrées, c'est-à-dire 888, les chiites annonceront l'occultation mineure et à la fin de la période annonceront l'occultation majeure, ça en sera fini de la présence de Dieu. Même la Sri en doute. Quand il lui vient de penser, il l'explicite à fond. Il dit par exemple, Dieu n'a pas de fils. Il est unique. Donc, les catholiques, les chrétiens se trompent quand ils disent que Jésus est le fils de Dieu. La Trinité formelle est une invention des chrétiens. C'est le même Dieu qui a mis sur le chemin de Jonas le poisson, qui a mis sur celui de Noé ou de Salim l'ange chérubin, le taureau ailé, sur celui de Joseph ou les patriarches, le bélier. Alors, s'il n'est qu'un Dieu, pourquoi tant de prophètes divers, tant de sectes en chaque religion? Le prophète répond, si le décret éternel n'avait été prononcé, un instant il mit fin au départ. Et tous les hommes auraient adoré le même Dieu. Mais c'est Dieu même qui a tracé les chemins où nous allons. Leur multiplicité n'est autre que celle des plantes, des animaux, celle de la pluie bonne ou mauvaise selon l'époque et le besoin. Pas non plus être plus clair. Il en est même du Coran inspiré, n'accusez donc pas de fausseté un livre dont vous ne comprenez pas les contradictions, faute d'en avoir connu l'accomplissement final. Il y a là encore un moment où la trilogie va céder à la quadrilogie, c'est à Sourate 13 où la lettre R vient s'ajouter, la lettre M vient s'ajouter à la trilogie ELR, c'est ELMR. Et cette période, c'est précisément, elle est intitulée Le Tonnerre, 850-869, et c'est alors que va se produire un peu partout dans le monde, pas seulement dans l'islam, la première fissure dans le royaume, puisque c'est la période où Rome connaîtra son premier schisme, c'est la fameuse histoire de Papa Jeanne, où les vikings pénètrent dans Rome, et pénètrent un peu partout, combattent même les musulmans en Méditerranée, où Byzance connaît aussi une querelle des images, certains pour les icônes, d'autres contre, et où, dans l'islam, vont naître une secte nouvelle, celle des Mu'tazili, qui vont poser le principe du Coran uniquement créé. Le Coran est uniquement créé, c'est l'adoration du Créateur, c'est l'adoration du taureau. Et la première mosquée qui est créée à Bagdad est absolument une ziggoura sumérienne. Il n'y a pratiquement pas de différence entre cette première mosquée et de Bagdad et les anciennes ziggouras de Sumer. C'est l'adoration du Créateur. Et par conséquent, c'est parce que le Coran a été créé qu'il a cette puissance de renouveau, cette puissance de créativité constante. Et vous voyez que le prophète masqué, il est du neuf de taureau, en fait, n'était venu que 100 ans trop tôt, même pas 60 ans trop tôt. Alors là, il y a un ésotérisme de plus en plus fouillé, de plus en plus creusé. En fait, il se produit une chose absolument extraordinaire là, parce qu'elle se produit simultanément dans les deux schismes. Dans le schisme du haut des Simains, qui croit aux 12 imams, le 11e imam est mort en 873. Il est mort en captivité en même temps, il avait 28 ans et son fils quelques mois, ils sont morts en même temps, encore une fois l'un et l'autre. Donc il ne s'est pas choisi de successeur. Mais il s'est choisi quatre représentants naïfs, dont le dernier, en 942, proclamera la grande occultation, la grande ténèbre. Vers la même époque, les chiites, ces petits humains qui croient cette structure, ne reconnaissent pas l'existence des trois imams cachés, le 9e, le 10e et le 11e. dont l'œuvre demeure secrète et très très ésotérique. On n'en connaît que des fragments. Et... En fait, aucun imam, aucun chiite n'ose prendre l'initiative de nommer le 12e imam, et qui sera le dernier, qui sera celui de la fin du temps, la fin du temps d'amour. Et en même temps, l'ouvreur des temps nouveaux. Mais un homme tout de même prend cette initiative, un Égyptien, va précisément, à l'instant où s'arrête la sourate signée, la dernière sourate signée est 907, c'est Aigre, le monde des ténèbres, 888-907, la 15e sourate, et la 16e et la 17e ne sont pas signées. Or c'est alors que ce faux Mahdi, va se nommer le 12e imam et créer le califat fatimide d'Égypte, qui, dans sa première forme, ne durera pas plus que le Mahdi lui-même, et donc précédera en 940, à la même époque où les chiites ont déclaré la grande occultation. Enfin, là, il y a une rencontre incroyable de dates entre les sourates de l'islam, l'histoire de l'humanité, parce que 940, c'est la fin des rois carolingiens, il n'y aura plus de rois ensuite. Alors, ça va être l'abolition des rois. C'est l'abolition des stèles solaires dans l'Empire Maya. C'est la disparition de toute trace du soleil, du dieu solaire, du dieu lion, sur la terre entière, à ce moment de la grande occultation. Et on rentre dans la nuit. Mais la dernière sourate de cette période, le voyage nocturne, 17e, raconte le voyage que va faire l'humanité dans cette nuit. Or, la sourate, là, est très décevante, elle dit peu de choses, mais la tradition, elle, est très riche. Les chiites aussi bien que les sunnites honorent le songe de Mahomet. Ça s'est produit un an avant l'égir. Mahomet s'est réveillé un jour en disant « J'ai visité les sept cieux ». Et il a raconté à son peuple qu'il avait visité les sept cieux. Mais comme, au fond, pour une fois, personne ne l'a cru, il y a eu des ricanements, on s'est dit « Non, mais maintenant, il va avaler n'importe quoi ». La sourate est très, ne décrit pas le rêve. Le rêve qui n'est pas un rêve, mais un vrai voyage de Mahomet à travers les sept cieux. Et les sept cieux étaient ceux d'Adam, de Jésus, de Jean, de Joseph, d'Enoch, d'Aaron, de Moïse et d'Abraham. On voit que ça ne se suit pas du tout dans l'ordre chronologique. Il s'agit vraiment de la réunion de sept structures choisies parmi les douze pour constituer le Dieu futur. Ce Dieu futur est représenté par l'arbre divin qui surmonte le jardin des délices, qui est au terme du voyage. Arbre que nourrissent les quatre fleuves, comme dans la Bible, dont Pichon est un d'eux. Et là, on offre aux voyageurs les trois coupes de vin, de lait et de miel. Ces quatre fleuves et ces trois coupes représentent exactement les quatre structures élémentales et les trois structures personnelles de tous les ésotérismes. Des sept, lesquels formulent les quatre fleuves, lesquels les trois coupes, c'est pas seulement défini, mais tout le Coran va définir les structures du Dieu futur, c'est-à-dire d'une part l'advenant, le souverain, le ténébreux et le créateur, d'autre part l'advenant encore, mais comme advenu, la balance et la fraternelle entente. Les quatre fleuves nourriciers et les trois graals, que symbolisent différemment les sept chérubins de l'ismaélisme et les sept cieux de la tradition. Un Dieu s'éloigne, le compatissant, le miséricordieux, mais un autre s'annonce, le miséricordieux, le généreux, l'éveilleur, qu'il ne faudra pas moins de 50 sourates, de 17 à 68, et de 950 ans solaires, de 945 à 1895, pour formuler. Car c'est la marque du Coran qui ne prophétise pas le royaume sans préciser qu'il doit finir, et qui ne menace pas de la nuit sans laisser espérer l'aurore. Voici quelques citations de ces sourates, tirées de la sourate 10, tirées de la sourate 9, d'abord la confirmation que je vous disais tout à l'heure, dans le livre de Dieu, depuis le jour de la création, 12 mois se suivent, dont 4 sont sacrés, tel est le fondement de la croyance véritable. Pendant ces mois, vous ne combattrez pas entre vous, mais vous combattrez ceux qui ajoutent les noms à Dieu, les idolâtres. Méfiez-vous de ceux qui mélangent les mois d'une année à l'autre, ou les disent sacrés en cette année-ci, non pas en cette année-là, Ils n'agissent ainsi que pour autoriser ce que Dieu interdit. Accuserez-vous Dieu de mensonge parce qu'il vous semble se contredire? Ou nommerez-vous des impostures ses prodiges? Il ne serait pas le plus grand crime. Mais la vie est comme une pluie, fécondatrice des plantes, bienfaisante aux hommes et aux animaux. De cette parure de la terre, les fleurs, les fruits, l'homme fait sa possession, l'effet de son pouvoir. Puis un jour, une nuit, la pluie cesse, un ordre venu du ciel frappe la terre de sécheresse, sa parure disparaît aussi complètement que si toujours la terre avait été nue. Ainsi révélons-nous nos signes à ceux qui sont doués de mémoire. Est-il un seul de vos dieux qui puisse ainsi détruire aussi bien que créer? Mais Dieu le peut. Direz-vous que le Coran est l'œuvre de Mahomet, alors qu'un homme compose un seul verset semblable au verset qu'il contient? Mais si vous doutez de mon Dieu, n'attendez pas que j'adore les vôtres, je n'adore que celui qui vous envoie la mort. Un ordre judicieux règne dans ce livre en dépit de ce qui semble. Le plus vil des reptiles est nourri des mains de Dieu, qui connaît son repère et le lieu de sa mort. Tout ainsi est écrit dans le livre de l'évidence. Ne l'accusez donc pas de mensonge par défaut de le comprendre, et ne dites pas que je suis l'auteur du Coran, s'il en était ainsi, j'emporterais le crime, mais je suis innocent des vôtres. Nous n'avons détruit aucune ville sans que son terme ne fût fixé, ce terme qu'aucun empire ne peut avancer ni différer. Adore seulement ton Dieu jusqu'au moment de la certitude. Au ciel, Dieu a placé les signes où l'homme lit clairement sa route. S'il savait les reconnaître, il reconnaîtrait aussi les autres signes répandus, la pluie et la sécheresse. Les animaux dont le lait élaboré entre le chyle et le sang vous est une boisson salutaire. Du fruit du dattier de la vigne, ne faites-vous pas tantôt une boisson enivrante, tantôt un aliment sain. Ce sont aussi des signes. De Dieu, l'abeille tient toute sa science. Tantôt d'habiter la ruche qu'elle s'est choisie sur les montagnes ou dans les arbres, tantôt de loger en celle que vous lui construisez, d'errer ici de là, de se satisfaire d'un fruit, de tirer de son sein le miel qui vous nourrit, cela encore est signe. Ne donnez donc pas d'égal à Dieu. Ou bien direz-vous qu'ils sont des égaux, l'esclave sans pouvoir et l'homme libéré, comblé de nos biens pour qu'il les dispense. La parabole de Dieu est différente, elle oppose le paralytique muet de naissance à celui qui librement progresse dans la voie. Mais direz-vous égaux? Si nous avons fait clair le signe du jour et obscur le signe de la nuit, c'est pour que le calcul du temps vous révèle l'infinie bonté. Si nous te découvrions et le double de la vie et le double de la mort, quel recours te resterait-il contre nous? Prie donc le soir, prie donc à l'aube, sans témoin, et la nuit lève-toi pour qu'on ne veille encore. Dis aux hommes, entre vous et moi, il n'est pas besoin d'autre témoin que Dieu.